BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. Sandra Gandoin, 90 minutes business.
Mais je ne suis pas toute seule, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. Je le disais à Jean-Marc, Lorraine Goumeau est malade. Elle se repose chez elle. On va faire en sorte, évidemment, de faire ce 90 minutes business pendant qu'elle se repose, justement. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais très bien.
Il y aura Jean-Marc à mes côtés.
À la différence, effectivement, de la malheureuse Lorraine, tout va bien.
Pour le moment, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Pierre Kupferman sera avec nous aussi. Annalisa Capellini également. Et Pierre-Martin Jeunier dans le débat tout à l'heure. Au sommaire de ce lundi 16 janvier, le projet de loi de Frédéric Descrozaille, qui a été voté en commission la semaine dernière, est examiné ce lundi en séance à l'Assemblée nationale. L'article 3 pose un problème aux distributeurs. La guerre avec les industriels est loin d'être terminée. On va voir pourquoi avec Pauline Tadevin. Ce sera dans le journal et dans notre focus. Avec notre invité, dans une dizaine de minutes, nous parlerons de création d'entreprises. Elles vont probablement dépasser le million en 2022 quand on aura les tout derniers chiffres. Mais c'est un record d'or. Et déjà, le statut de micro-entreprise a connu une belle progression ces derniers mois. On va décrypter ce phénomène avec François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Et puis, à 12h40, on partira au Royaume-Uni. Anniversaire controversé du Brexit, manifestation quasi permanente et dans tous les secteurs, rapport compliqué avec le reste de l'Union. Bref, l'année s'annonce compliquée pour les Britanniques. On en parlera avec vous, Jean-Marc, avec Pierre et avec Patrick Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Et puis, à 13h, la deuxième partie de l'émission, on continuera à répondre à vos questions, à recruter également. Les recruteurs viendront pitcher leur entreprise. Ce sera à 12h55, 13h sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Restez avec nous. C'est 90 minutes business, c'est l'heure du journal.
90 minutes business, le journal.
Et donc ce projet de loi de Frédéric Descrozaille qui a été voté en commission la semaine dernière et qui est examiné en séance à l'Assemblée aujourd'hui. Son article 3 qui propose de donner plus de poids aux fabricants de produits alimentaires lors des négociations commerciales met le feu aux poudres. Les distributeurs sont vent debout. Richard Panquiot, le directeur général de l'Institut de liaison des industries de consommation, était l'invité de Good Morning Business. Ce matin, pour lui, le texte est finalement peut-être la moins pire des solutions. Écoutez.
En fait, l'article 3, il est inspiré aussi d'un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales, la CEPC de 2015, qui essayait déjà de réfléchir à ces questions-là. Et à l'époque, le sujet était moins grave, parce qu'il n'y a pas le niveau d'inflation qu'on a aujourd'hui. Mais ce que disait, en fait, l'avis en question, c'est ça, c'est que normalement, si vous n'êtes pas mis d'accord, vous arrêtez de bosser ensemble. Ouais. Il y a un arrêt de la relation. Et encore une fois, les conséquences, elles sont graves pour les deux parties. Pour un distributeur, parce que se priver d'un certain nombre de marques, c'est embêtant, mais pour un industriel, vous imaginez, l'article 3 tel qu'il est rédigé, je vous garantis, il fait pas plaisir aux industriels, il leur fait peur. Il leur fait peur pourquoi? Parce que imaginez demain que si on n'est pas d'accord, monsieur Leclerc me dit, bah nous c'est terminé, vous bossez plus avec nous, 23% du business. Si Oxo me dit, on travaille plus avec vous, 30% du business. Si Carrefour me dit, on travaille plus avec vous, 20% du business. Vous voyez, il y a un tel niveau de concentration que le risque pour l'industriel, il est bien plus important pour le distributeur. Et c'est pour ça que ce texte, il fait pas l'unanimité, même à l'intérieur des fédérations, parce que c'est un risque. Mais ce qui serait le pire, c'est de garder aujourd'hui, en l'état, le texte.
Voilà ce à quoi Bruno Le Maire, quelques minutes plus tard, a répondu, on l'écoute et on en parle après.
L'intention du député Descrozaille est bonne, que l'équilibre n'est pas encore trouvé, et que quand l'équilibre n'est pas encore trouvé, là, en l'espèce, c'est entre l'industrie et l'agroalimentaire, le consommateur et le distributeur, ben, quand l'équilibre n'est pas encore trouvé, il faut continuer à travailler.
Donc, en l'état, vous ne soutenez pas cette proposition
de loi ? En l'état, je pense que cette proposition de loi qui part d'une bonne intention doit être retravaillée, qu'on a encore un peu de temps pour la retravailler.
Voilà, le texte doit être retravaillé. On va en parler dans les détails, dans le focus, dans 3 minutes avec Pauline Tadevin. Mais c'est vrai que c'est un gros enjeu, Jean-Marc, pour les industriels et les distributeurs. C'est arriver à un accord.
Oui, arriver à un accord. Sinon, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire jouer la concurrence.
Oui.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Bruno Le Maire, c'est qu'encore une fois, c'est une proposition sur le plan technique. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas derrière. C'est une initiative parlementaire. Et donc, Bercy, le ministère des Finances, est très, très réservé sur tout ce... C'est l'augmentation des réglementations à Bercy, on n'arrête pas de rappeler, depuis 1986, en France, normalement, c'est la concurrence qui doit fixer les prix. Et plus on s'éloigne de la concurrence, moins la situation est favorable.
La concurrence à tout prix. Bon, on y reviendra dans 3 minutes avec Pauline. Dans ce journal également, Toujours dans le monde de la distribution, on attend un délibéré aujourd'hui du tribunal de commerce de Grenoble concernant GoSport qui doit décider ou non d'un redressement judiciaire. La chaîne de magasins de sport aurait de graves problèmes financiers et pourtant, Aude-Kersulec, ces derniers jours, on a appris que GoSport avait racheté les magasins Gap en France. Pourquoi faire, Aude ?
Alors déjà, GoSport, c'est vrai qu'est historiquement, structurellement en perte et l'enseigne a donc réalisé une acquisition fin 2022 pour 38 millions d'euros. GoSport a donc racheté les magasins Gap en France. Cette somme doit remonter au propriétaire de Gap, qui est aussi la maison mère de GoSport. Donc Gap et GoSport font en fait partie d'un même groupe, Hermione People and Brand, dit HPB. Alors pourquoi les réunir ? Ben en fait, oui, pour s'en séparer. Ça va être la tâche de Patrick Puy, un manager de transition qui a été nommé au début du mois de janvier. Il avait notamment géré le dossier Vivarte. Alors, il n'est pas à l'origine de ce rapprochement entre Gap et GoSport. Il défend néanmoins l'opération. Eh bien, pour lui, le but, ça va être de valoriser l'ensemble pour en obtenir un meilleur prix et donc trouver surtout un repreneur. L'audience a commencé depuis ce matin au tribunal de commerce et on attend le délibéré sur la situation de ces stations de paiement de GoSport.
Et on me dit que la décision sera finalement rendue jeudi. Ça vient de tomber et on y reviendra évidemment dans les éditions de la journée. Il y avait un précédent, Aude Camailleux, qui fait peur aux autorités, ce dossier, hein, très rapidement.
Ben oui, en fait, surtout que le propriétaire est le même, un homme d'affaires bordelais ayant fait fortune dans l'immobilier, Michel Ohayon, à la tête de la financière immobilière bordelaise. Michel Ohayon a enchaîné ces dernières années les rachats d'enseignes à bas coût. Alors, il rachète à la fois les fonds de commerce et les murs. Il possède par exemple une vingtaine de magasins Galeries Lafayette en province, Gap, GoSport, Camailleux, donc, dont la liquidation judiciaire a été prononcée en octobre. C'est pourquoi ce dossier est suivi de près par le gouvernement. On ne connaît pas vraiment les vraies intentions de Michel Ohayon. En fait, quand il rachète à la barre du tribunal de commerce, il dit qu'il va sauvegarder les emplois, faire des synergies. En fait, ce qui l'intéresserait, ce serait l'immobilier. Camailleux avait conduit à la perte de 2100 emplois. Eh bien, GoSport fait justement la même taille. Et en plus, GoSport avait souscrit à deux PGE, donc prix garantis par l'État, en 2020 et 2021.
Merci beaucoup, Aude Kersulec. Le focus est donc ce dossier dans l'industrie agroalimentaire. Projet de loi de Frédéric Descrozaille qui a été voté en commission la semaine dernière, on l'a dit, qui est examiné à l'Assemblée aujourd'hui en séance. Les quelques modifications apportées au texte la semaine dernière n'ont pas du tout calmé les distributeurs. Pauline Tadevin, globalement, les tensions s'exacerbe jusqu'à encore ce matin de part et d'autre.
Mais alors, cela s'est traduit ces dernières heures par une bataille de communiqués et de posts sur les réseaux sociaux, avec d'un côté les distributeurs, de l'autre les industriels de l'agroalimentaire soutenus par une partie du monde agricole. Hier donc, Michel-Édouard Leclerc publie une pleine page dans le journal du dimanche où il s'interroge. Faut-il voter une loi qui favorise l'inflation ? Dans la foulée, il est soutenu par un communiqué commun d'une grande partie des distributeurs français qui dénonce un texte qui va rajouter de l'inflation à l'inflation. C'est un texte scandaleux, une folie destinée à faire monter les marges des industriels, nous disait le patron d'Intermarché sur ce plateau vendredi dernier. De l'autre côté, les industriels de l'agroalimentaire emmenés par l'ILEC, ils souhaitent un rééquilibrage des relations commerciales et du rapport de force entre distributeurs et fournisseurs. Ils sont donc soutenus par des députés Renaissance, à la tête desquels Frédéric Descrozaille, mais aussi par la présidente des députés Renaissance, Aurore Berger, qui est montée au créneau sur RTL hier, estimant qu'au lieu de se payer une page de pub dans la presse, le patron de Leclerc aurait mieux fait de garder cet argent pour aider par exemple les horticulteurs. À noter aussi que cet après-midi à 14h, une conférence de presse des députés Renaissance est prévue avec des industriels. On va voir de quel côté va pencher la balance à l'Assemblée, d'autant qu'il y a un acteur qui regarde de très très près aussi ce qu'il s'y passe, c'est Bercy. Bercy qui, comme on vous l'annonçait dès ce matin, est opposé à ce projet de loi en l'état. En tout cas, Bruno Le Maire l'a confirmé dans la matinée sur BFM TV. Il trouve que l'équilibre n'est pas encore trouvé et il appelle à encore travailler le texte, Sandra.
Qu'est-ce qui pose réellement problème très très rapidement,
ouais, ce qui a surtout enflammé les débats, c'est l'article 3 sur ce qui se passe entre distributeurs et fournisseurs s'ils n'arrivent pas à se mettre un accord à l'issue de la période officielle des négociations le 1er mars. C'est tellement délicat que le rapporteur Descrozaille a réécrit encore l'article ce week-end pour le clarifier. Si pas d'accord, le projet de loi prévoit un mois supplémentaire qui doit permettre de saisir un médiateur des entreprises pour trouver un terrain d'entente. Si au terme de ce mois, il n'y a toujours pas d'accord, il y aura, dit le rapporteur, rupture du contrat commercial. Les distributeurs jugent que c'est une façon de favoriser les conditions pression des fournisseurs. Il n'y a pas que les distributeurs qui râlent. Il y a la FEF aussi, Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France, qui a réagi encore ce matin en estimant que permettre à l'industriel d'arrêter de livrer, permettre aux distributeurs d'arrêter de commander, ça correspond à l'intérêt des multinationales et ça va pénaliser les PME et les ETI. Bref, c'est extrêmement compliqué. Du côté du rapporteur, après les déclarations de Bruno Le Maire, on les a contactés, bien entendu. Dans l'entourage de Frédéric Descrozaille, on explique que le texte qui va être présenté en séance a encore été réécrit ce week-end avec la clarification effectuée dans l'article 3. Et que pour l'instant, on en reste là.
Jean-Marc, un petit mot.
Oui, ça me confirme ce que je déplore, c'est qu'il y a toujours dans le patronat français une tendance à la recherche de la rente, de la protection, de la... Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une proposition et pas un projet. Et ce qui m'inquiète dans le mot proposition, c'est que ça vient du Parlement. Le Parlement est censé représenter ses électeurs. Mmh. Et ses électeurs, c'est des consommateurs. Et donc cette idée, c'est ce que je disais ce matin, Frédéric Bastiat insistait sur le fait que tout le monde est consommateur, alors que les producteurs, c'est une petite minorité de la population. Ouais. Donc l'enjeu du Parlement, c'est de défendre la population, les consommateurs. Et Michel-Édouard Leclerc a raison.
Merci beaucoup Pauline, merci Jean-Marc. Tout de suite, les marchés.
90 minutes business, les marchés.
Antoine, la tendance... Oui, je marche sur la musique, Antoine. La tendance de la mi-journée.
Avec un CAC assez peu de conviction finalement aujourd'hui, on est au-dessus des 7000 points, donc ça c'est bon, c'est acquis. On a gagné 2,5% sur la semaine écoulée et on gagne quasiment 9% depuis le début de l'année, hein, vraiment en ligne droite. Donc là on temporise en l'absence de cotation du côté de Wall Street pour cause de jours fériés et on prend en compte aussi de nouveaux fondamentaux macroéconomiques pour commencer l'année et en particulier la force de l'euro. Beaucoup du niveau de l'euro-dollar en ce moment était dû à la faiblesse du dollar. Maintenant c'est véritablement le différentiel de taux entre zone euro et États-Unis qui fait le reste. On est à 1,0834 sur l'euro-dollar. À noter aussi le pétrole qui a repassé la barre des 85$ tout à l'heure sur le Brent de mer du Nord. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à guetter, une tendance de fond. Du côté des valeurs qui signent les plus fortes hausses, à noter que les plus fortes progressions sont signées plutôt par des valeurs défensives. D'ailleurs, c'est assez paradoxal alors que le marché retrouve de l'appétit pour le risque. Carrefour gagne quasiment 4%. On est à 17,22€. On a Thalès plus 2,66€ à 115,85. À noter Bouygues, plus 1,13 à 30,31. Et puis du côté des valeurs à la baisse, Orange, moins 1,89 à 9,73. Hermès, moins 1,61 à 1624€. Et Worldline, moins 1,37 à 41,08€. À noter les fortes hausses de CGG, qui gagne 7,5% à 75 centimes. Et d'Orpea, plus 5,44 à 7,56. Le CAC, donc plus 0,21, on est à 7038 points. L'euro face au dollar, 1,0834, Sandra.
Merci beaucoup, Antoine. Et on vous retrouve à 12h30, évidemment. On va faire un petit dossier sur les cryptos qui sont en forme. Tout de suite, l'édito de Jean-Marc.
90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, vous revenez sur les déclarations de Geoffroy Roux-de-Bézieux, alors que plusieurs organisations patronales multiplient, on en parle tous les jours, les demandes d'aide au gouvernement pour amortir notamment la flambée des coûts de l'énergie. Le patron du MEDEF, lui, ne semble pas du tout approuver. Il rejoint ce que vous dites, Jean-Marc.
Absolument, absolument. Il rejoint ce que je dis, aussi bien sur tous ces producteurs de l'agroalimentaire qui veulent être protégés, qui veulent des prix encadrés, et tous les gens qui se précipitent à Bercy pour réclamer des aides. Alors effectivement, ça n'a pas toujours été très net dans l'attitude du patron. Mais au moment du Front Populaire, il y avait un responsable du patronat qui s'appelait Claude-Joseph Gignoux qui a sorti un texte, qui est un texte que tous les patrons devraient avoir en livre de chevet, qui s'appelle « Patrons, soyez des patrons ». Et ce qu'il leur disait, c'est que d'abord, être patron, c'est un état d'esprit, et ça va depuis l'équivalent du CAC 40, le PDG du CAC 40, jusqu'à l'artisan boulanger dont nous parlons beaucoup. C'est quelqu'un dont l'objectif, effectivement, est de vendre et de faire du profit. Le deuxième élément que mettait en avant Claude-Joseph Gignoux, c'est que à partir du moment où on a choisi d'être patron, il faut surtout ne pas en avoir honte. Et donc, il ne faut pas passer son temps à se produire dans des endroits où l'on dit « Ah, mais on est là pour la RSE, on est là pour s'aimer, pour s'excuser. Ouais. » Non, il faut s'assumer. On a choisi d'être patron, on est patron. Ouais. Et puis, le troisième élément, et c'est là qu'on rejoint ce que dit Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est que être entrepreneur, a dit Geoffroy Roux-de-Bézieux, ce n'est pas à la moindre difficulté tendre la main. Et donc, Claude-Joseph Gignoux mettait en avant le fait que, effectivement, moins l'État s'en mêle, mieux ça vaut. Et il rappelait alors un personnage que je cite souvent, qui était le prévôt des marchands de Bordeaux, même si certains disent qu'il n'était pas de Bordeaux, mais moi, je prétends qu'il était de Bordeaux.
C'est étonnant, Jean-Marc.
Et donc, ce prévôt des marchands, on est au XVIIe siècle, sous Louis XIV, Colbert est aux affaires, et Colbert le reçoit, et il lui dit « Que puis-je pour vous ?» Et il lui répond « oubliez-moi. La meilleure chose que les patrons puissent obtenir de l'État, c'est qu'ils les oublient.
Voilà, et vous êtes donc d'accord avec Geoffroy Roux.
Absolument.
Jean-Marc, restez avec nous. Dans un instant, l'émission continue. Il y aura à 12h55 90 minutes business avec vous. On va recruter, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui. Ce sera sur le droit du travail. Et puis, un petit peu plus tôt, dans un instant, on va parler création d'entreprises. Elles ont connu une belle embellie en cette fin d'année 2022 pour dépasser a priori le million de créations, un record. Et on va décrypter ce chiffre avec François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. À tout de suite.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business, l'invité.
Avec nous ce midi dans 90 minutes business, l'actu, François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Le cap du million d'entreprises, finalement, a-t-il été franchi en 2022, François Hurel?
Oui,
on l'annonçait
à
la fin du mois de décembre. Ça y est, il sera franchi.
Tous les indicateurs, effectivement, le disent. Nous franchions. Alors, c'est une très grande étape. Hein. Mm. Je rappelle qu'en 2000, dans les années 2000, on en créait 240 000 péniblement. Avant 2009 et le régime de l'auto-entrepreneur, on était à 300 000. On passe le million, 3550 par jour. Et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que il s'est créé 5 500 000 auto-entrepreneurs depuis 2009. Ben, il en reste 2 800 000 actifs. Ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant. Ça veut dire que finalement, ce régime perdure et que les gens s'y sentent bien. Tant mieux.
Beaucoup de micro-entreprises créées cette année, là, ces derniers mois, c'est cette forme-là qui plaît.
Nettement, pratiquement 70% de la création. Je vous dis 3550 par jour, ouais. ce qui est quand même impressionnant. Le jour où on a créé le régime, ils sont créés 1000 et on était 1000 jours et on était là en train de dire ah, mais c'est formidable, incroyable, en fait inimaginable. Et qui aurait cru qu'on en ferait 3550 par jour?
Est-ce que c'est au détriment justement des créations d'entreprises classique qu'on voyait il y a quelques années?
Je ne le crois pas, parce que quand on voit les chiffres, la création de sociétés est relativement stable, la capitalisation fonctionne plutôt bien. Je ne crois pas à ça. Je crois en revanche que c'est pas au détriment, parce que j'ai pas envie de parler en fait d'affrontement entre un régime et un autre, mais c'est une réinterrogation globale sur le salariat.
Oui.
Et ça, c'est une vraie question de fond.
Mais
après ça, il faudra qu'on y réponde.
Cette formule permet de combiner les deux.
De cumuler, absolument.
C'est ça la différence aujourd'hui. C'est
absolument, absolument.
C'est ça, ces créations, cette explosion ces derniers mois, ce sont des salariés.
Ah, c'est les slasheurs, les cumulards, c'est tout ce qu'on veut. Ce sont des gens qui cherchent un nouveau revenu, un nouveau souffle, un nouvel épanouissement, une nouvelle façon de travailler. Mmh. C'est un nouveau regard des Français sur la façon de travailler et sur leur façon de travailler. Et donc, je trouve que c'est un phénomène sociétal, c'est une révolution de l'emploi, une révolution du travail, plutôt que des simples chiffres économiques.
C'est presque très rassurant sur la vision et la philosophie de travail du Français.
Ah, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Il faut être optimiste, et moi, je suis très optimiste.
Jean-Marc.
C'est rassurant que vous soyez optimiste, mais vous ne craignez pas quand même que l'ennemi soit embusqué. Ce que je veux dire par là, c'est que l'URSSAF n'arrête pas de dire qu'il va falloir qualifier tout un tas de gens en salariés et non plus en auto-entrepreneurs ou en micro-entrepreneurs. Mmh. Et même le président de la République avait fait sa campagne en 2016-2017, en disant nous allons passer de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. Et maintenant, il n'en parle plus du tout et il n'arrête pas de parler réindustrialisation, salariat, 19e siècle, cheminée qui fume. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une ambiance anti...
Je reprendrai bien une de votre formule d'il y a quelques minutes lorsque vous me parliez du prévôt de Bordeaux, qui n'était peut-être pas en fait
bordelais.
Moins on en parle et mieux ça vaut. J'ai envie de dire que en fait, ce régime, à chaque fois qu'on en parle, c'est pour le complexifier. Donc surtout, n'y touchons pas. Surtout, n'en parlons pas, il fonctionne bien. Alors ensuite, je ne note pas un acharnement et des chiffres de l'URSSAF qui requalifient toute la sainte journée. Je ne note pas les tribunaux engorgés de gens, non, au contraire. Au contraire, je pense qu'il y a une espèce de modus operandi maintenant qui est de dire c'est un phénomène installé, poursuivons-le, ne boudons pas le plaisir, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Parce que finalement, globalement, ils font une vingtaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Globalement, ils paient 5 milliards ou 6 milliards effectivement de cotisations. Un grand nombre n'en profitent pas puisqu'ils sont retraités ou demandeurs d'emploi, ou bien en fait cumulards. Donc en réalité, c'est j'ai envie de dire, c'est tout parfait.
C'est du plus.
Ah, c'est du plus.
Ouais.
C'est clairement du plus. Il y en a 30% qui exercent à titre exclusif. Ils n'ont que ça comme revenu, et ceux-là font en moyenne un chiffre d'affaires avoisinant les 30 000 euros par an. En réalité, quand on fait une moyenne de la totalité, ceux qui n'y consacrent que 1% de leur temps, et les autres en 100%, ben on arrive à 6-7 000 euros par an. Pas si mal, pas si mal. Parce qu'il y a plein de gens qui, comme moi, en fait, n'y consacrent que très peu de leur temps.
Ça veut dire quand même aussi que peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, on va constater qu'elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Ces micro-entreprises.
Oui, mais là, je vous renvoie au chiffre 5,5 millions, 2,8 millions.
Effectivement.
C'est là où il y a un chiffre qui est effectivement interpellant. Mm-hmm. C'est que finalement, elles perdurent. Il y en a plein qui se sont effectivement créés en 2009 et qui veulent surtout pas changer. Mm-hmm. Parce que finalement, c'est simple. Tout se passe bien. Ils ont pas d'ennuis. Ils ont pas de relations très dures, en fait, avec l'administration. Mm-hmm. La seule réserve que je mets, en fait, aujourd'hui, ce qui pourrait arrêter la création, et ben c'est le guichet unique.
Eh ben on allait
c'est
en parler, le guichet unique.
C'est paradoxalement, j'ai envie de dire, la création d'entreprise n'a pas besoin de souffrir pour être belle.
Alors
le guichet unique, ça l'a fait souffrir.
Mis en place ce 1er janvier, vous étiez effectivement frileux en fin d'année, vous n'avez pas changé d'avis 15 jours plus tard.
Alors
après
non,
le début.
Non, mais j'ai noté quand même une très grande évolution de Bercy qui, au cabinet de Bruno Le Maire, commence à dire, on va peut-être imaginer un fast track pour les micro-entrepreneurs.
Mmh.
Et pour les auto-entrepreneurs. Preuve que, il y a quand même une interrogation.
C'est fastidieux, c'est quoi que vous lui reprochez au guichet unique?
2 heures, en fait, de temps, minimum, et pour ceux qui vont effectivement comprendre. Et au-delà de ça, c'est une foultitude, en fait, de questions, mais qui sont totalement inappropriées, en fait, inutiles. Le système, il est fondamental, parce que je pense qu'il faut qu'on y parvienne, mais ça ne doit pas consister à empiler des questions. Ça doit en fait imaginer un système un peu dynamique qui permette de dire, suivant les réponses que vous formulerez, les questions, en fait, s'afficheront. N'interrogeons pas quelqu'un qui n'a pas de voiture pour savoir si jamais il a une voiture comme ci ou comme ça. C'est pas la peine. On va lui demander 3 adresses. On va lui demander si jamais il n'est pas administrateur. Mais attendez, mais non.
C'est
mais non.
Évolutif.
J'ai un créateur d'entreprise qui m'a cité une phrase que j'ai appréciée et qui est en même temps d'une violence incroyable. Il a dit, c'est insultant pour nous. C'est absolument insultant.
Ça veut dire qu'on ne connaît pas assez bien le fonctionnement de certaines entreprises pour leur proposer un outil efficace.
Il faut qu'ils croûtent en fait tous les jours, mm-hmm. et on leur demande de passer 2 heures sur en fait un outil administratif. Mm. Ils n'ont pas le temps de le faire. Le président de la République d'ailleurs l'avait un peu noté. J'ai entendu quelques-unes de phrases. Il a des phrases dures. Et ben c'est exactement ça. Je pense que il faut pas qu'on insulte l'avenir. Il faut surtout qu'on accompagne. Plutôt qu'on bloque. On ne doit pas être bloquant.
Merci beaucoup François Hurel d'être venu
Merci
nous voir,
vous.
Président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Vous reviendrez bien sûr nous voir dans quelques semaines. On verra au mois de mars si ça s'est amélioré.
Et on parlera peut-être retraite.
D'accord. Allez, tout de suite, le top 3 du web.
90 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web. Pierre, on commence par ce point sur l'appel à la mobilisation nationale. Tiens, justement, lancé par les syndicats pour le 19 janvier. À quoi s'attendre pour cette grève, Pierre?
Bien, même si c'est encore un peu tôt, on peut d'ores et déjà se préparer à une journée noire dans les transports publics, notamment à la RATP. Donc, télétravail recommandé pour ceux qui ne prendront pas part au mouvement et qui peuvent travailler à distance. D'autant qu'il faudra attendre jusqu'à mercredi pour savoir précisément à quoi s'attendre ligne par ligne dans le métro, dans le RER, ainsi que pour les bus et les trams, idem d'ailleurs à la SNCF, puisque la direction prévoit de communiquer sur le nombre de trains en circulation seulement mercredi. Sachant que l'ampleur de cette mobilisation va jouer aussi sur la suite. Selon un contrôleur, membre du collectif ASCT, vous savez, celui qui était à l'origine de la grève massive du week-end de Noël, il faudra attendre jeudi pour avoir un avant-goût de la suite. C'est vraiment, je vous cite ces propos tenus sur notre antenne. Les conséquences de cette mobilisation générale des syndicats, elles s'annoncent également très importante dans les écoles, les collèges, les lycées, notamment les lycées professionnels. Et donc toute la question maintenant, c'est de savoir si on sera à 1 million, 1,5 million de manifestants. Vous avez un pronostic, Jean-Marc ?
Je pense qu'il y a une chose qui va jouer sur le nombre de manifestants, pas sur le nombre de grévistes. Pas sur le nombre de grévistes, je pense qu'il y en aura beaucoup, mais sur le nombre de manifestants, c'est le temps. Il y a des études qui ont été faites en histoire pour savoir quand est-ce qu'on fait une révolution. Et on ne fait que très rarement une révolution sous la pluie et au mois de janvier. En 1848, en février, il faisait froid et sec. Et donc là, on peut courir dans les rues, tout ça. Le 14 juillet 1789, il faisait chaud, mais pas trop, juste ce qu'il fallait. Et donc, il avait fait orage le 12 juillet, donc il y avait une température qui s'était un peu abaissée.
Là, ça s'annonce sec. Hein.
Ça s'annonce sec et froid, et donc on va voir.
On va voir,
mais tout ça dépendra effectivement de la météo.
On continue avec ce panier anti-inflation sur lequel travaille le gouvernement, Pierre.
Oui, concrètement, ce panier consistera en 20 produits de première nécessité. Alors, ça peut être des produits alimentaires, ça peut être des produits d'hygiène, sur lesquels les distributeurs vont s'engager à avoir le prix le plus bas possible. L'idée de départ, hein, c'était plutôt d'imposer par la loi à toutes les chaînes de supermarchés la création d'une liste de 20 produits essentiels qu'elles devaient vendre à prix coûtant ou avec une très faible marge. Et ce panier anti-inflation de départ, il avait été inspiré par le modèle grec. Bon, finalement, pour des raisons apparemment juridiques liées à la concurrence, il n'y aura pas d'obligation. Chaque enseigne va rester libre de ne pas jouer le jeu, si elle le souhaite, mais bon, avec le risque de perdre évidemment des clients. Pas d'obligation non plus, ça c'est important, dans la composition de ce panier, qui devra simplement comprendre des produits essentiels, on l'a dit, en matière d'hygiène, et des produits alimentaires. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jean-Max ?
Non, c'est une mauvaise idée. Encore une fois, il faut laisser jouer la concurrence. Heureusement, à chaque fois qu'on se lance dans ces procédures qui sont plus ou moins dirigistes, d'identification de produits privilégiés et tout ça, il y a quand même un bon sens qui dit bon, mais c'est pas obligatoire, c'est bon. Et
donc, en Grèce, c'est obligatoire.
Oui, ça, mais ça ne veut pas dire.
Non, mais je dis pas que c'est bien. Un gouvernement conservateur, est-ce
que oui, absolument. Non, mais les conservateurs et la gauche interventionniste sont en général assez souvent d'accord pour ne pas laisser jouer le marché. Donc, ça va encore rejoindre la liste des nombreux gadgets. Il y aurait peut-être un index senior à mettre en plus dans la liste des choses que les entreprises de distribution doivent fournir aux clients.
Allez, et puis on continue avec notre série. On peut appeler ça une série hein, maintenant.
Ah bah oui.
ChatGPT, passionne visiblement ce sujet. Hein.
Oui, Thomas Leroy, cette fois, a montré le travail de ChatGPT à une prof de philo pour qu'elle juge de la qualité de travail de cette intelligence artificielle, alors dans sa matière, la philosophie, et avec un niveau d'exigence pas très élevé, puisque ChatGPT devait plancher sur un des sujets du bac philo de 2022, avec, je le précise, uniquement le plan. Pourquoi ? Parce que les créateurs de ChatGPT ont récemment changé le principe et on ne peut plus réaliser des dissertations complètes, on a juste le plan. Et donc, vous lirez le plan que ChatGPT a rédigé et le commentaire de la professeure qui, c'est ce qu'elle dit, ne lui aurait sûrement pas mis plus de la moyenne.
Jean-Marc.
Ah, mais je. Oh, elle a raison.
Vous l'auriez vu, Jean-Marc, vous aussi.
Je suis sur sa ligne. Pas plus de la moyenne.
Merci, Pierre. Vous restez avec nous, évidemment. On va vous retrouver dans le débat avec Jean-Marc dans un instant. Et tout de suite, c'est le rappel des titres. À tout de suite.
90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Et après avoir jeté un œil sur le CAC, on va retourner à Euronext avec vous, Antoine Larigauderie, et pour faire un gros plan sur les cryptos aujourd'hui. Une très solide performance ces derniers jours. Le Bitcoin, c'est notable, Antoine, est de nouveau au-dessus des 20 000 dollars.
Allez, on va énerver un petit peu Jean-Marc encore avec un gain de 22% depuis les niveaux de début novembre. Vous vous souvenez ce qui s'est passé début novembre ? C'était le début de la fin pour FTX. Donc en gros, on est en train d'effacer cet épisode des cours des grandes cryptos. Est-ce qu'on n'est pas alors justement en train de mettre de côté l'aspect systémique de cette crise pour se consacrer à nouveau peut-être aux fondamentaux des cryptos, à la technologie crypto et aux actifs qui sont financièrement intéressants? C'est un signe en tout cas qui ne trompe pas d'un point de vue technique. On suit aussi un petit peu la tendance des marchés financiers. On retrouve tout bêtement de l'appétit pour le risque. Concrètement, on a 378 millions de dollars de positions à la vente sur sur le Bitcoin qui ont été liquidés la semaine dernière avec un cours moyen de 20 000 dollars. Ce qui fait que ça donne un excellent support technique, même en cas de prise de bénéfice. On est revenu autour des 400 milliards de dollars de capitalisation. En gros, ça pèse autant que Walmart en bourse, si vous voulez. Donc partout, on repasse des paliers importants qui vont replacer les cryptos et le Bitcoin en particulier comme support standard d'investissement, un baromètre un peu de la capacité des investisseurs à prendre des risques et sur un écosystème qui aura peut-être retrouvé un petit peu de maturité. Sur le Bitcoin, on en est à 12 jours de hausse consécutive. C'est la deuxième meilleure série de l'histoire, record à battre 15. Ça, c'était en novembre 2013. Et bien, en 2013, les cryptos et le Bitcoin, ça existait déjà.
Jean-Marc, une réaction?
Oh, juste l'usage du mot investissement. Investissement, normalement, ça consiste à consacrer de l'argent, à créer de la richesse. Or là, on ne crée pas de richesse. On en prend aux autres pour la donner aux autres. Alors, le tout, c'est d'être toujours du côté de ceux qui reçoivent. Et bon, pour l'instant, il y a des gens qui sont en train de s'enthousiasmer en disant « Oh, c'est moi qui vais recevoir ». L'expérience et l'histoire montrera que méfiance.
Vous voyez, prudence. Antoine, il est difficilement impressionnable, Jean-Marc Daniel. Hein.
Il est difficilement impressionnable. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas enlever aux cryptos, c'est que quand les investisseurs, quand les retraités américains vont chez Fidelity en disant « Oui, je voudrais souscrire à un plan d'épargne en Bitcoin », ils ne sont pas menacés avec une calage dans le dos. Ils y vont volontairement et ils pensent que ça a un intérêt économique. Il y a énormément de banques aussi qui se mettent à cet écosystème en pensant qu'il y a des fondamentaux alors technologiques, mais aussi en termes de technologie de la tokenisation. Est-ce que finalement les cours actuels ne sont pas le reflet du fait qu'on va enfin se consacrer aux fondamentaux de la technologie crypto? Moi, je ne sais pas. Je vous dirai ça.
L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Antoine. Intérêt économique, c'est ce que vous disiez finalement. Pas de création de richesse.
Oui, il n'y a pas de création de richesse. Mais l'intérêt, effectivement, la technologie peut être utilisée à beaucoup de choses. Et puis, je rappelle qu'en France, alors ce n'est pas le cas aux États-Unis, vous avez une jurisprudence. Quand vous achetez la Tour Eiffel, si vous achetez la Tour Eiffel, la personne qui vous l'a vendue est condamnée pour escroquerie. Mais vous êtes condamné aussi parce que vous devriez savoir que c'était une escroquerie. Quand vous achetez la Tour Eiffel, vous êtes forcément dans une situation où vous vous dites quelque part, il s'est passé quelque chose, c'est pas normal. Donc si vous étiez un peu lucide, vous n'achèteriez pas la Tour Eiffel. Je pense que sur les cryptos...
C'est la même chose pour les cryptos. C'est en train quand même de grignoter plusieurs secteurs de l'économie, Jean-Marc, qui vous donne un peu de temps. Mais bon, on va en reparler. Hein. C'est un débat à long terme. Merci messieurs, en tout cas. Et on va retrouver notre débat. On va parler du Royaume-Uni, de l'année très risquée du Royaume-Uni qui s'annonce. Patrick Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe, nous a rejoint. C'est dans 2 minutes. À tout de suite.
90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business. Le débat.
On a du temps pour notre débat aujourd'hui. On va parler en longueur de cette situation du Royaume-Uni. Jean-Marc Daniel est avec nous toujours sur ce plateau. Pierre Kupferman également. Et Patrick Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. Merci de nous avoir rejoint, Patrick. Je voudrais vous demander tout d'abord, entre les manifestations quasi quotidiennes, ça va continuer encore cette semaine, il y a des appels, le changement de récent de Premier ministre, les Britanniques qui commencent à se retourner contre l'idée et le concept du Brexit, 2 ans après sa mise en place. On peut parler de crise, Patrick?
Oui, c'est une crise majeure depuis le Brexit, on le sait, qui n'a pas apporté la croissance que l'on souhaitait. Au contraire, cette économie britannique est entrée officiellement en récession, d'après la Banque d'Angleterre. Cela va continuer en 2023, voire le premier semestre 2024. C'est un pays qui est en crise. Pourquoi ? À l'issue de 12 ans de gouvernement conservateur, tous les secteurs sont touchés. Le service national de santé est dans une situation catastrophique. Les infirmières sont en grève. Les enseignants vont encore voter aujourd'hui pour un mouvement de grève et le 1er février, il y aura une grève générale, on peut dire, qui va être la première de ce type depuis une quarantaine d'années.
Oui, on est habitué, mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas de mal à se comparer à la situation au Royaume-Uni. Pierre, effectivement, ce sont des hausses de salaire qui sont demandées par toutes ces professions.
Des hausses de salaire parce que on a... Alors, c'est pas une spécificité britannique. Il y a beaucoup de d'inflation au Royaume-Uni. On s'était approché des 11%. En fait, ça a un petit peu baissé ces derniers mois. Mais bon, on est à 11%. Bon, on est à un niveau qui est à peu près comparable. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que sur l'alimentaire, il y a vraiment eu des hausses considérables. On est à plus de 16,5%. Et puis qu'il n'y a pas eu ce qu'on a connu, nous, en France, et qui a été appliqué dans d'autres pays. C'est-à-dire un soutien de l'État pour réduire l'impact de l'inflation sur les ménages, notamment les prix de l'énergie. Mmh. Ça, c'est vraiment la très grosse différence. Donc, c'est un choix du gouvernement britannique. Et effectivement, ça suscite cette colère, cette envie aussi d'être augmenté, parce que si l'État n'aide pas, on va aller voir les employeurs, parce que c'est ça ce qui passe, on voit, alors parfois c'est l'employeur qui est aussi l'État, parce que le système de santé c'est l'employeur-État, mais parfois ce sont des employeurs privés, puisque quoique les cheminots, non, c'est un peu compliqué avec les cheminots, c'est un peu du privé, un peu du public. Bon, vous voyez que c'est très compliqué, on a des syndicats qui sont très remontés, on a un contexte politique qui est très particulier, parce que vous le disiez, ça fait quand même très très longtemps que les travaillistes n'ont plus été au pouvoir.
12 ans.
Et voilà, et donc, voilà, c'est un cocktail assez explosif.
Patrick ?
Oui, c'est d'autant plus explosif qu'on a un gouvernement qui ne veut strictement rien négocier. Ils sont dans une position d'affrontement. Et le Premier ministre Rishi Sunak a déposé un projet de loi à la Chambre des communes pour réduire encore plus le droit de grève au Royaume-Uni. Mmh. Et lorsque certains employeurs proposent une augmentation de 5% de leur salaire, ça équivaut en fait à une baisse de facto du niveau de vie, puisque l'inflation, vous l'avez dit, est à 10-11%. Donc la situation est totalement bloquée. Et on le voit aussi bien dans les cheminots qui connaissent, qui ont connu depuis 20 ans, depuis l'ère Thatcher, une privatisation très importante, avec une augmentation considérable des prix, mais une sécurité qui n'est pas forcément meilleure qu'avant. Donc on voit bien que face à cette position du gouvernement qui est dans une position très dure, eh bien, tous les terreaux de la crise sont présents et vont sans doute continuer au cours de cette année.
Ça rappelle l'ère Thatcher, effectivement. C'est pas similaire, mais ça rappelle cette période de crise.
Il y a une chose qu'on ne voit pas assez sur le Royaume-Uni, c'est que le pays vit très largement au-dessus de ses moyens. On l'a vu au moment où Liz Truss a essayé de faire voter un budget qui consistait à baisser les impôts pour effectivement apporter. Et immédiatement, la livre s'est effondrée et les taux d'intérêt se sont tendus. Mm. Quand vous regardez la surface de la planète, il n'y a qu'un seul autre pays qui vit largement au-dessus de ses moyens dans les mêmes proportions, je mets à part les États-Unis, c'est la France. Mm. Et la différence qu'il y a entre la France et le Royaume-Uni, c'est que la France, ses importations sont payées par les exportations allemandes. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni arrivait à survivre dans des situations qui étaient des situations de crise parce que c'était un producteur d'énergie. La grande différence avec la période Thatcher, c'est pas le Brexit et tout ça, la grande différence, c'est que le Royaume-Uni du 19e siècle, c'était du charbon, le Royaume-Uni du 20e siècle, c'était du pétrole, le Royaume-Uni d'aujourd'hui, ça devrait être du travail.
Oui.
Et ce n'est pas assez de travail. Le deuxième atout qu'avait le Royaume-Uni, c'était ses cercles. C'est-à-dire, Churchill disait, en fait, le Royaume-Uni réussit à mettre en jeu trois cercles, le Commonwealth, l'Europe et les États-Unis. Il était à l'intersection des trois. Évidemment, ces trois cercles ne se coupaient pas, donc c'était un peu compliqué à gérer. Mais enfin, il y avait quand même ces trois cercles. Sur le plan du Commonwealth, on l'a vu, il y a plusieurs pays, notamment la Barbade et tout un certain nombre de pays, qui ont annoncé qu'ils n'accepteraient plus d'avoir Charles III comme roi. Ils avaient accepté Elisabeth II. Donc il y a le Commonwealth qui est en train de se défaire progressivement. Le Nigeria a tenu des propos très virulents sur la présence britannique en Afrique. Donc, le cercle européen, on voit ce qu'il en est, et surtout le cercle américain. Donc on rejoint Margaret Thatcher, c'est-à-dire qu'en 1976, les Américains avaient refusé de prêter au Royaume-Uni, obligeant le Royaume-Uni à aller devant le FMI. Là, la Banque d'Angleterre est en train de négocier avec la Réserve fédérale, et la Réserve fédérale va renvoyer de nouveau le Royaume-Uni devant le FMI. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, autre qu'une politique d'austérité assez brutal.
Patrick ?
Oui, je crois quand même, faut pas non plus sous-estimer les effets du Brexit. Le Royaume-Uni, c'est le seul pays du G7 à ne pas avoir recouvré son taux de croissance, son produit intérieur brut, d'avant la période Covid.
2019, donc.
Donc, 2019. Donc, ça veut dire que on a mis sur le dos du Covid un certain nombre de choses, on a mis sur le dos de la crise énergétique un certain nombre de choses, mais force est de constater que le Brexit a eu des conséquences néfastes, ne serait-ce que parce que il n'y a plus de liberté de circulation d'exportation. Regardez l'accord avec l'Irlande du Nord qui n'est toujours pas négocié. Les chefs d'entreprise n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus recruter. Or, le Royaume-Uni est un pays qui a besoin de main-d'œuvre aussi. Et si effectivement le taux de chômage est moins important aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus d'activité, il manque de main-d'œuvre et beaucoup d'employés effectivement sont partis en congé maladie ou à la retraite.
On va revenir sur ce manque de main-d'œuvre. Annalisa jette un œil sur le monde comme tous les jours dans 90 Minutes Business. Au milieu de tous ces débats, Annalisa, au moins un point points sur lequel Londres semble avoir réussi. Trouver une entente avec Paris sur le thème de l'immigration après des années de désaccords, Annalisa.
Oui, exactement, parce que Londres et Paris ont signé un nouvel accord pour maîtriser la crise migratoire entre les deux pays. Il faut savoir que chaque année, le Royaume-Uni finance la France pour stopper les migrants à sa frontière avant qu'ils ne tentent la traversée de la Manche, en application des accords du Touquet qui remontent à 2003. Et avec ce nouvel accord signé en fin 2022, Londres a décidé d'augmenter ses paiements pour aider Paris à financer sa surveillance de la Manche. C'est désormais 72 millions d'euros par an que devront verser les Britanniques en 2022-2023 à la France. Au total, c'est 200 millions d'euros qui ont été versés par Londres depuis 2018. Pour la sécurité des frontières, bien sûr, avec la France. La France qui, en contrepartie, s'engage donc à augmenter ses forces de sécurité de 40%, ce qui revient à 350 policiers et gendarmes sur ses côtes.
Voilà. Est-ce qu'il y a une obligation de résultat de la part de la France, Annalisa ?
Voilà, aucune obligation de résultat de la part de la France. Aucun objectif chiffré d'interception de bateaux dans cet accord. Même si pour l'instant, la stratégie française semble marcher. Parce que vous le voyez, c'est à peu près la moitié des bateaux qui sont interceptés avant le départ. Pourtant, le nombre de personnes qui parviennent quand même à passer la Manche augmente d'année en année. En 2022, c'est plus de 45 000 migrants qui ont traversé la Manche à bord d'embarcations de fortune.
Voilà, ce dossier est très brûlant, Jean-Marc Daniel, entre la France et le Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni, qui est en manque de main-d'œuvre, ne pourrait pas un tout petit peu desserrer cette politique pour se servir de ces migrants comme main-d'œuvre ?
C'est sûr que le Royaume-Uni manque de main-d'œuvre et surtout il manque de main-d'œuvre qualifiée. Il y a une partie de la main-d'œuvre qui arrivait d'Europe qui n'est plus là et qui n'est plus au rendez-vous. C'est-à-dire que le problème du Royaume-Uni, c'est que l'élite part aux États-Unis et en revanche, vous avez tout un tas de gens qui arrivent, qui ne sont pas formés, qui potentiellement peuvent être des acteurs très actifs de l'économie, mais qui arrivent sans aucune formation particulière, qui veulent rentrer au Royaume-Uni. Et donc, ça se traduit, mais là aussi, c'est quand même assez ancien. C'est-à-dire que le Royaume-Uni est, avec l'Italie, le seul pays où la productivité stagne, voire recule. Et donc, si vous regardez au moment du vote, justement, du Brexit, Osborne, qui était le chancelier de l'échiquier, disait il faut qu'on aille plus loin dans la construction européenne parce que nous ne bénéficions pas de ce que nous pourrions espérer de l'Europe, c'est-à-dire davantage de productivité, davantage d'efficacité économique. Et les Brexiteurs disaient, mais regardez l'Italie, d'ailleurs, The Economist a fait un papier assez célèbre qui disait, l'Italie et la Grande-Bretagne, c'est la même chose, c'est Britannie, c'est plus des Britanniques, mais des Britanniens, nous sommes dans la même situation que les Italiens. Donc, je crois que le véritable enjeu dans tout ça, c'est que derrière tout ce discours, il y avait Singapour sur la Tamise. Donc, c'était l'idée qu'on allait créer, puisqu'il n'y avait plus d'énergie, puisque effectivement il y avait une tentation d'isolement, on allait faire une sorte de petite économie moins mondialisée, en ce sens qu'elle allait moins être directement impliquée dans des processus de décision internationale, comme elle était avec l'Europe, mais plus mondialisée, en ce sens qu'elle allait se projeter. Là aussi, pour conclure, vous avez ce qu'on appelle Royaume-Uni l'esprit du Drakkar, c'est-à-dire que les Anglais disent, nous sommes les héritiers des Danois, des Vikings, c'est-à-dire on est regroupés sur notre Drakkar, on est tout recoupé, on est entre nous, on veut personne d'autre, mais avec le Drakkar, on va partout. Et donc, cet esprit du Drakkar, ça devait faire Singapour sur la Tamise. Pour l'instant, ça fait plutôt le FMI.
Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, Patrick.
Non, ça ne fonctionne pas du tout. Vous savez que le Royaume-Uni a mis au point le système australien d'un permis d'immigration à points. C'est-à-dire que moins vous avez de qualifications, moins vous avez de points, moins vous êtes autorisé à avoir un titre de séjour. Or, qu'est-ce qui manque à Londres ou ailleurs ? C'est bien les gens qui travaillent dans les boulangeries, dans les bars, ces gens qui n'ont pas beaucoup de qualifications.
C'est ça, ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre qualifiée non plus.
Oui, il y a un gros besoin. Moi, j'étais à Londres il y a 2-3 ans, bien dans le bar où je suis allé, il n'y avait pratiquement aucun Anglais. Il y avait des Polonais, des Italiens, des Français, voire d'autres personnes venues d'ailleurs. C'est donc bien qu'on a besoin de cette main-d'œuvre. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni s'inscrit en défaut face à la Convention européenne des droits de l'homme parce que refuse cette toute notion de regroupement familial. Et vous savez que cette théorie d'immigration, c'est une instrumentalisation politique. Priti Patel, l'ancienne ministre, voulait refouler les embarcations, ce qu'ont n'ont pas voulu faire la police de la mer, parce que c'est contraire aux droits de la mer, d'une part, et d'autre part, ils ont signé un accord avec le Rwanda pour leur faire traiter cette politique d'immigration. Donc, c'est bien ces accords du Touquet, c'est bien de verser c'est de l'argent, mais c'est largement insuffisant. Pourquoi ? Parce que la moitié des embarcations vont passer à travers. Il faut savoir une chose, c'est que c'est plusieurs centaines de kilomètres de plage, Côte d'Opale jusqu'à Calais, qui doit être surveillée.
Et beaucoup de personnes qui arrivent, effectivement.
Oui, j'insiste là-dessus. Je pense que le problème du Royaume-Uni, ce n'est pas qu'on manque de serveurs ni de boulangers, c'est le fait que...
On manque de médecins.
Oui. Les gens qui ont été formés à Oxbridge sont en ce moment à Harvard, ou finissent à Harvard.
Non, mais c'est les deux. C'est les deux.
Et je pense que pour un pays comme le Royaume-Uni, le véritable enjeu, Singapour, ça se fait avec une économie de la connaissance. Si le Royaume-Uni veut faire l'économie de la connaissance, il va falloir qu'il reste attractif pour son élite.
Et la source d'inquiétude qu'on peut avoir, enfin, si on était britannique, c'est qu'il y a de plus en plus de Français expatriés qui reviennent en France. Mm-hmm. Ça dit quelque chose. Mm. Ils reviennent en France parce que ils estiment, entre autres, que le coût de la vie est devenu trop élevé. Mais c'est pas la seule raison. C'est, je pense que le, entre guillemets, bordel ambiant, autant venir en France, voyez.
Pour voir du bordel.
Qu'est-ce qu'on peut attendre, Patrick, de la rencontre de Rishi Sunak et d'Emmanuel Macron qui est programmée au mois de mars?
Je crois qu'ils vont faire le point sur le contrôle migratoire, effectivement, entre la Manche. C'est un sujet essentiel parce qu'à Londres, politiquement, c'est instrumentalisé. On accuse la France de ne pas en faire assez. Et Emmanuel Macron, je crois, insistera également sur la nécessité de régler cette histoire du protocole d'Irlande du Nord parce que ça n'a toujours pas été réglé, à savoir les marchandises qui partent d'Angleterre en Irlande du Nord ne doivent pas rentrer en République d'Irlande pour l'Union Européenne. Et donc tout cela, c'est des sujets extrêmement sensibles. Et comme Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui comme l'homme d'État le plus expérimenté, je pense qu'il aura un poids politique sur ces questions.
Pierre.
Et juste un dernier chiffre, parce qu'on ne l'a pas donné ce chiffre, c'est quand même un chiffre qui, moi, m'a impressionné. Hein. Sondage publié par The Independent, pourcentage des Britanniques soutiennent l'idée d'un nouveau référendum pour retourner dans l'UE.
65%.
On était à 55% il y a un an.
Effectivement, c'est vrai que c'est un chiffre très parlant, Patrick.
C'est très parlant, mais ni les travaillistes, ni les conservateurs, ni aucun parti politique ne souhaitent aujourd'hui de référendum, de faire marche arrière. Peut-être
y aura-t-il... l'Union Européenne non plus, d'ailleurs.
Non, et l'Union Européenne non plus. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour au moins une génération. Et donc, peut-être qu'on assouplira les conditions de circulation des marchandises, des capitaux et des citoyens, mais on ne reviendra pas sur le Brexit.
Il faut voir sur le long terme. Un deuxième thème d'actualité, messieurs, ouverture de Davos ce soir. J'en parle, Daniel. 116 milliardaires qui sont attendus malgré l'absence des Russes et des Chinois. 53e édition, évidemment, on va vous faire vivre ce forum de Davos avec Edwige Chevrillon, Nathan Cocampo et tous nos journalistes sur place. 116 milliardaires, Jean-Marc, ça va bien?
Ah ben oui,
absolument.
Et plus il y a de milliardaires, mieux ça vaut.
Alors, vous avez
deux facteurs qui chouent dans l'évolution du nombre de milliardaires. Vous avez un facteur qui est de la croissance, vous avez un facteur qui est aussi l'inflation. C'est-à-dire, on devient milliardaire si la monnaie se déprécie. Mais plus il y a de milliardaires, mieux ça vaut. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans l'affaire des milliardaires, il n'y aura pas les Russes. Et sur les Chinois, il y en a quelques-uns qui ne pourront pas venir. Parce qu'ils seront en prison. Il y en a encore un qui a été arrêté.
Les milliardaires ne sont pas en odeur de santé du tout.
Il y en a encore un qui a été arrêté fin décembre, là, qui était un producteur de panneaux solaires dont on n'a plus de nouvelles. Jacques Ma, donc.
Son empire est en train d'être démantelé.
Donc, je pense qu'il ne comptera plus bientôt parmi les milliardaires, qui comptera avoir une situation favorable. Donc.
Mais ma deuxième partie de phrase, ça va pas vous plaire, Jean-Marc, c'est ça. C'est Oxfam qui veut diviser ce chiffre par deux d'ici 5-6 ans.
Alors, Oxfam ne veut pas les mettre en prison. Hein.
Non,
il veut juste utiliser l'arme fiscale pour faire en sorte qu'ils ne soient plus milliardaires. Voyez,
vous savez que ma réponse à ça est simple. Je la trouve dans les écritures du XVIIe siècle. C'est Corneille qui, dans une de ses pièces, dit « Jamais un envieux ne pardonne au mérite ». Je précise, parce que je me suis trouvé confronté à ce genre de problème, c'est que Corneille, ce n'est pas le chanteur d'origine rwandaise, c'est un écrivain français du XVIIe siècle.
Pierre. Oui. Donc, est-ce qu'on revient sur les propositions d'Oxfam ou pas?
Mais oui, Oxfam.
C'est impôt exceptionnel sur la fortune, taxe sur les dividendes, et enfin, une hausse de l'imposition sur les revenus du travail et du capital des 1% les plus riches. Alors, 1% les plus riches, on n'est évidemment pas juste au niveau des milliardaires. On est sur les multimillionnaires, évidemment.
Patrick?
Oui, il ne s'agit pas de condamner la richesse, il en faut des entreprises. Le seul problème, si vous voulez, c'est que depuis les 25 dernières années, et c'est Oxfam qui le dit, on a vu une augmentation considérable de l'extrême pauvreté, l'extrême précarité. Et donc, pas uniquement dans les pays en voie de développement.
La répartition des richesses.
La répartition des richesses. Et par exemple, je crois que les deux tiers des richesses sont détenues par 1% de cette population. Et donc, c'est grave aujourd'hui ce qui se passe. Et pas uniquement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays industrialisés. Rappelez-vous la Suède, par exemple. On parlait de l'État-providence. Et bien non, c'est un État libéral et il y a beaucoup de précarité en Suède.
Le forum de Davos qui commence donc ce soir. Les 116 milliardaires cette année seront là. On ne sait pas ce que ça donnera l'année prochaine. C'est à suivre, évidemment, toute la semaine. Grâce à nos journalistes de BFM Business, il y aura notamment Patrick Pouyanné, Bruno Le Maire, François Villeroy de Gallo. Vous pourrez suivre l'événement sur notre antenne tout au long de la semaine. Dans un instant, BFM Business avec vous. Lorraine Goumeau se repose, mais cette partie est toujours là à suivre dans 5 petites minutes sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Je vous rejoins. On répond à vos questions sur le droit du travail aujourd'hui. On recrute également. Restez avec nous. C'est dans un instant 90 minutes business avec vous. Merci, messieurs, d'être venus.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.